Honoré de Balzac, Illusion perdue, 20. Lucien revint joyeusement à son hôtel, où il fit une toilette aussi soignée que le jour néfaste où il avait voulu se produire dans la loge de la marquise d'Espard à l'opéra. Mais déjà, ses habits lui allaient mieux, il se les était appropriés. Il mit son beau pantalon collant de couleur claire, de jolies bottes à glands qui lui avaient coûté 40 francs, et son habit de bal. Ses abondants et fins cheveux blonds, il les fit friser, parfumer, ruisseler en boucles brillantes. Son front se para d'une audace, puisée dans le sentiment de sa valeur et de son avenir. Ses mains de femme furent soignées, leurs ongles en amande devinrent nets et rosés. Sur son col de satin noir, les blanches rondeurs de son menton étincelèrent. Jamais un plus joli jeune homme ne descendit la montagne du pays latin. Lucien était beau comme un dieu grec. Il prit un fiacre et fut à 7h15 à la porte de la maison du café Cervelle. La portière l'invita à grimper 4 étages en lui donnant des notions topographiques assez compliquées. Armé de ces renseignements, il trouva, non sans peine, une porte ouverte au bout d'un long corridor obscur et reconnut la chambre classique du quartier latin. La misère des jeunes gens le poursuivait, là comme rue de Cluny chez d'Arthez, chez Chrétien, partout. Mais partout, elle se recommande par l'empreinte que lui donne le caractère du patient. Là, cette misère était sinistre. Un lit en noyer, sans rideaux, au bas duquel grimaçait un méchant tapis d'occasion. Aux fenêtres, des rideaux jaunis par la fumée d'une cheminée qui n'allait pas, et par celle du cigare. Sur la cheminée, une lampe carcelle donnée par Florine et encore échappée au Mont-de-Piété. Puis une commode d'acajou terni, une table chargée de papier, 2 ou 3 plumes ébouriffées là-dessus, pas d'autres livres que ceux apportés la veille ou pendant la journée. Tel était le mobilier de cette chambre, dénuée d'objets de valeur, mais qui offrait un ignoble assemblage de mauvaises bottes bâillant dans un coin, de vieilles chaussettes à l'état de dentelle. Dans un autre, des cigares écrasés, des mouchoirs sales, des chemises en 2 volumes, des cravates à 3 éditions. C'était enfin un bivouac littéraire, meublé de choses négatives et de la plus étrange nudité qui se puisse imaginer. Sur la table de nuit, chargée des livres lus pendant la matinée, brillait le rouleau rouge de fumade. Sur le manteau de la cheminée errait un rasoir, une paire de pistolets, une boîte à cigares. Dans un panneau, Lucien vit des fleurets croisés sous un masque. 3 chaises et 2 fauteuils, à peine dignes du plus méchant hôtel garni de cette rue, complétaient cet ameublement. Cette chambre, à la fois sale et triste, annonçait une vie sans repos et sans dignité. On y dormait, on y travaillait à la hâte, elle était habitée par force, on éprouvait le besoin de la quitter. Quelle différence entre ce désordre cynique et la propre, la décente misère de d'Arthez. Ce conseil, enveloppé dans un souvenir, Lucien ne l'écouta pas, car Étienne lui fit une plaisanterie pour masquer le nu du vice. « Voilà mon chenil. Ma grande représentation est rue de Bondy, dans le nouvel appartement que notre droguiste a meublé pour Florine et que nous inaugurons ce soir. » Étienne Lousteau avait un pantalon noir, des bottes bien cirées, un habit boutonné jusqu'au cou. Sa chemise, que Florine devait sans doute lui changer, était cachée par un col de velours, et il brossait son chapeau pour lui donner l'apparence du neuf. « Partons, » dit Lucien. « Pas encore. J'attends un libraire pour avoir de la monnaie. On jouera peut-être. Je n'ai pas un liard. Et d'ailleurs, il me faut des gants. » En ce moment, les deux nouveaux amis entendirent les pas d'un homme dans le corridor. « C'est lui, » dit Lousteau. « Vous allez voir, mon cher, la tournure que prend la Providence quand elle se manifeste au poète. Avant de contempler dans sa gloire Doria, le libraire fashionable, vous aurez vu le libraire du quai des Augustins, le libraire escompteur, le marchand de ferraille littéraire, le normand ex-vendeur de salade. « Arrivez donc, vieux tartare !» cria Lousteau. Voilà, dit une voix fêlée comme celle d'une cloche cassée. « Avec de l'argent ?»« De l'argent ? Il n'y en a plus en librairie !» répondit un jeune homme qui entra en regardant Lucien d'un air curieux. « Vous me devez 50 francs, d'abord, » reprit Lousteau. « Puis voici deux exemplaires d'un voyage en Égypte qu'on dit une merveille. Il y foisonne des gravures. Il se vendra. Finot a été payé pour deux articles que je dois faire. Item, deux des derniers romans de Victor Ducange, un auteur illustre au Marais. Item, deux exemplaires du second ouvrage d'un commençant, Paul de Kock, qui travaille dans le même genre. Item, deux diseux de Dôle, un joli ouvrage de province. En tout, 100 francs au prix fort. Ainsi, vous me devez 100 francs, mon petit Barbé. » Barbé regarda les livres en examinant les tranches et les couvertures avec soin. « Oh, ils sont dans un état parfait de conservation !» s'écria Lousteau. « Le voyage n'est pas coupé, ni le Paul de Kock, ni le Ducange, ni celui-là sur la cheminée. Considération sur la symbolique. Je vous l'abandonne. Le mythe est si ennuyeux que je le donne pour ne pas en voir sortir des milliers de mythes. « Eh bien, » dit Lucien, « comment ferez-vous vos articles ?» Barbé jeta sur Lucien un regard de profond étonnement et reporta ses yeux sur Étienne en ricanant. « Ah, 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 on voit que monsieur n'a pas le malheur d'être homme de lettres !»« Non, Barbé, non. Monsieur est un poète, un grand poète, qui enfoncera Canalis, Béranger et de la Vigne. Il ira loin, à moins qu'il ne se jette à l'eau. Encore irait-il jusqu'à Saint-Cloud ?»« Si j'avais un conseil à donner à monsieur, » dit Barbé, « ce serait de laisser les vers et de se mettre à la prose. On ne veut plus de vers sur le quai. » Barbé avait une méchante redingote boutonnée par un seul bouton. Son col était gras, il gardait son chapeau sur la tête, il portait des souliers. Son gilet entrouvert laissait voir une bonne grosse chemise de toile forte. Sa figure ronde, percée de deux yeux avides, ne manquait pas de bonhomie. Mais il avait, dans le regard, l'inquiétude vague des gens habitués à s'entendre demander de l'argent et qui en ont. Il paraissait rond et facile, tant sa finesse était cotonnée d'embonpoint. Après avoir été commis, il avait pris depuis 2 ans une misérable petite boutique sur le quai, d'où il s'élançait chez les journalistes, chez les auteurs, chez les imprimeurs, y achetant, à bas prix, les livres qui leur étaient donnés, et gagnant ainsi quelques 10 ou 20 francs par jour. Riche de ses économies, il flairait les besoins de chacun, il espionnait quelques bonnes affaires, il escomptait au taux de 15 ou 20% chez les auteurs gênés les effets des libraires auxquels il allait le lendemain acheter, à prix débattu au comptant, quelques bons livres demandés. Puis il leur rendait leurs propres effets au lieu d'argent. Il avait fait ses études, et son instruction lui servait à éviter soigneusement la poésie et les romans modernes. Il affectionnait les petites entreprises, les livres d'utilité, dont l'entière propriété coûtait 1000 francs, et qu'il pouvait exploiter à son gré, tels que l'histoire de France mise à la portée des enfants, la tenue des livres en 20 leçons, la botanique des jeunes filles. Il avait laissé échapper déjà 2 ou 3 bons livres, après avoir fait revenir 20 fois les auteurs chez lui, sans se décider à leur acheter leurs manuscrits. Quand on lui reprochait sa couardise, il montrait la relation d'un fameux procès dont le manuscrit, pris dans les journaux, ne lui coûtait rien et lui avait rapporté 2 ou 3 000 francs. Barbet était le libraire trembleur, qui vit de noix et de pain, qui souscrit peu de billets, qui grappille sur les factures, les réduit, colporte lui-même ses livres on ne sait où, mais qui les place et se les fait payer. Il était la terreur des imprimeurs, qui ne savaient comment le prendre. Ils les payaient sous escompte et rognaient leurs factures en devinant des besoins urgents. Puis, il ne se servait plus de ceux qu'il avait étriés en craignant quelques pièges. « Eh bien, continuons-nous nos affaires ?» dit Lousteau. « Eh, mon petit, » dit familièrement Barbet, « j'ai dans ma boutique 6 000 volumes à vendre. Or, selon le mot d'un vieux libraire, les livres ne sont pas des francs. La librairie va mal. »
« Si vous alliez dans sa boutique, mon cher Lucien, » dit Étienne, « vous trouveriez sur un comptoir en bois de chêne qui vient de la vente après faillite de quelques marchands de vin, une chandelle non mouchée. Elle se consume alors moins vite. À peine éclairée par cette lueur anonyme, vous apercevriez des casiers vides. Pour garder ce néant, un petit garçon en veste bleue souffle dans ses doigts, bat la semelle ou se brasse comme un cocher de fiacre sur son siège. Regardez, pas plus de livres que je n'en ai ici. Personne ne peut deviner le commerce qui se fait là.
Et voici un billet de 100 francs à 3 mois, dit Barbet, qui ne put s'empêcher de sourire en sortant un papier timbré de sa poche, et j'emporterai vos bouquins. Voyez-vous, je ne peux plus donner d'argent comptant. Les ventes sont trop difficiles. J'ai pensé que vous aviez besoin de moi. J'étais sans le sou. J'ai souscrit un effet pour vous obliger, car je n'aime pas à donner ma signature.
Ainsi, vous voulez encore mon estime et des remerciements ? Dit Lousteau.
Ah, quoi qu'on ne paie pas ces billets avec des sentiments, je les accepterai tout de même, répondit Barbet.
Mais il me faut des gants, et les parfumeurs auront la lâcheté de refuser votre papier, dit Lousteau.
Tenez, voilà une superbe gravure, là, dans le premier tiroir de la commode. Elle vaut 80 francs. Elle est avant la lettre et après l'article, car j'en ai fait un assez bouffon. Il y avait à mordre sur Hippocrate, refusant les présents d'Artaxerxès. Hein ? Cette belle planche convient à tous les médecins qui refusent les dons exagérés des satrapes parisiens.
Vous trouverez encore sous la gravure une 30aine de romances.
Allons, prenez le tout et donnez-moi 40 francs.
40 francs ? Dit le libraire en jetant un cri de poule effrayé.
Tout au plus 20.
Encore, puis-je les perdre ? Ajouta Barbet.
Où sont les 20 francs ? Dit Lousteau.
« Ma foi, je ne sais pas si je les ai, » dit Barbet en se fouillant.
« Les voilà. Oh, vous me dépouillez. Vous avez sur moi un ascendant. Allons.
Partons, » dit Lousteau, qui prit le manuscrit de Lucien et fit un trait à l'encre sous la corde.
« Avez-vous encore quelque chose ?» demanda Barbet.
« Rien, mon petit Shylock. Je te ferai faire une affaire excellente. »
Où tu perdras 1 000 écus pour t'apprendre à me voler ainsi,
dit à voix basse Étienne à Lucien.
Et vos articles ? Dit Lucien en roulant vers le palais royal.
Bah, vous ne savez pas comment cela se bâcle. Quant au voyage en Égypte, j'ai ouvert le livre et lu des endroits, ça et là, sans le couper. J'y ai découvert 11 fautes de français. Je ferai une colonne en disant que si l'auteur a appris la langue des canards gravée sur les cailloux égyptiens appelés des obélisques, il ne connaît pas sa langue, et je le lui prouverai. Je dirais qu'au lieu de nous parler d'histoire naturelle et d'antiquité, il aurait dû ne s'occuper que de l'avenir de l'Égypte, du progrès de la civilisation, des moyens de rallier l'Égypte à la France, qui, après l'avoir conquise et perdue, peut se l'attacher encore par l'ascendant moral. Là-dessus, une tartine patriotique, le tout entrelardé de tirades sur Marseille, sur le Levant, sur notre commerce. Mais s'il avait fait cela, que diriez-vous? Eh bien, je dirais qu'au lieu de nous ennuyer de politique, il aurait dû s'occuper de l'art, nous peindre le pays sous son côté pittoresque et territorial. Le critique se lamente alors. La politique, dit-il, nous déborde. Elle nous ennuie. On la trouve partout. Oh, je regretterais ces charmants voyages où l'on nous expliquait les difficultés de la navigation, le charme des débouquements, les délices du passage de la ligne, enfin, ce qu'ont besoin de savoir ceux qui ne voyageront jamais. Tout en les approuvant, on se moque des voyageurs qui célèbrent comme de grands événements un oiseau qui passe, un poisson volant, une pêche, les points géographiques relevés, les bas-fonds reconnus. On redemande ces choses scientifiques parfaitement inintelligibles, qui fascinent comme tout ce qui est profond, mystérieux, incompréhensible. L'abonné rit, il est servi. Quant au roman, Florine est la plus grande liseuse de romans qu'il y ait au monde. Elle m'en fait l'analyse et je broche mon article d'après son opinion. Quand elle a été ennuyée par ce qu'elle nomme les phrases d'auteur, je prends le livre en considération et fais redemander un exemplaire au libraire qui l'envoie, enchanté d'avoir un article favorable. Bon Dieu, mais la critique, la sainte critique, dit Lucien, imbu des doctrines de son cénacle. Mon cher, dit Lousteau, la critique est une brosse qui ne peut pas s'employer sur les étoffes légères, où elle emporterait tout. Écoutez, laissons là le métier. Voyez-vous cette marque ? Lui dit-il en lui montrant le manuscrit des Marguerites. J'ai uni, par un peu d'encre, votre corde au papier. Si Doria lit votre manuscrit, il lui sera certain possible de remettre la corde exactement. Ainsi, votre manuscrit est comme scellé. Ceci n'est pas inutile pour l'expérience que vous voulez faire. Encore, remarquez que vous n'arriverez pas, seul et sans parrain, dans cette boutique, comme ces petits jeunes gens qui se présentent chez 10 libraires avant d'en trouver un qui leur présente une chaise. Lucien avait éprouvé déjà la vérité de ce détail. Lousteau paya le fiacre en lui donnant 3 francs, au grand ébahissement de Lucien, surpris de la prodigalité qui succédait à tant de misère. Puis les deux amis entrèrent dans les galeries de bois, où trônait alors la librairie dite de nouveautés.